Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En cette presque fin d'année difficile, si l'on parle actualité, de ne pas se pencher à nouveau sur le grand fait social qui laboure la France, les gilets jaunes, et preuve que l'actualité des gilets jaunes embrasse peut-être plus encore qu'on ne le dit bien des préoccupations des Français. Impossible de parler des gilets jaunes sans évoquer également la COP24 qui s'est tenue en Pologne du 2 au 15 décembre ou le fameux pacte de Marrakech approuvé le 10 décembre dernier. Deux événements importants s'il en est qui parlent de notre avenir et de celui de nos enfants en 2019 et bien au-delà. Le grand débat, c'est donc le thème de cette émission Vivante Église en ce vendredi, en cette presque veille de Noël, avec autour du plateau, donc pour cette dernière édition 2018, Daniel Cabanis, ancien professeur d'histoire du droit à l'université Toulousain Capitole et chroniqueuse géopolitique à Radio Présence, qui va nous rejoindre dans quelques instants, Alain Cérisola, diacre délégué diocésain à la solidarité pour le diocèse de Toulouse. Bonjour Alain.
Bonjour.
Emmanuel Perrier, prêtre dominicain, docteur en théologie et professeur au Studium des Dominicains de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
On a donc décidé de commencer en parlant des gilets jaunes. Alors je vais donner le menu dans le détail. On va parler des gilets jaunes et de la COP24. Dans la deuxième partie d'émission, on parlera du pacte de Marrakech. Et à la fin, j'ai demandé à chacun des invités présents sur ce plateau ce matin de nous donner une bonne nouvelle pour 2018, une bonne nouvelle qu'ils retiennent dans l'actualité, afin de ne pas finir sur une note trop difficile. Les gilets jaunes, on en a beaucoup parlé à cette antenne, difficile peut-être de résumer ce mouvement. Je me disais que la meilleure manière, c'était peut-être d'essayer de décrire une photo qui était parue le 12 décembre dernier dans le journal La Croix, voilà, à 3 jours de Noël ou 2 jours de Noël. Le 12 décembre dernier, enfin nous sommes à 3 jours de Noël et là c'était le 12 décembre dernier où on voit donc des gilets jaunes sur un rond-point, cette fameuse République des ronds-points, on a même appelé ce mouvement avec humour la République des ronds-points, où l'on voit 2 personnes déguisées en Père Noël avec marqué « redistribution des richesses ». J'aurais plein de questions à vous poser, mais on va se lancer tout de suite. Alain Cérisola, qu'est-ce que ce mouvement a suscité comme réflexion chez vous ?
J'ai envie de dire que quelle que soit notre sensibilité, quelle que soit notre approche, on ne peut pas ne pas entendre, ne peut pas prendre en compte cette colère. Les personnes qui se sont exprimées, les gilets jaunes, pour les appeler comme ils sont, se sentent humiliés, se sentent méprisés, se sentent oubliés, se sentent écrasés. Et il y a un décalage entre les gens qui nous gouvernent et les gens, je dirais, du terrain. Et ce décalage fait qu'il y a un sentiment d'injustice sociale, un sentiment d'injustice fiscale, et que face au bouleversement technologique dans la vie, dans la société, face à tous les changements qu'il y a lieu, il faut absolument les entendre et prendre en compte leurs revendications. Alors pas l'ensemble des revendications, parce qu'effectivement ça part absolument dans tous les sens, mais il faut les entendre. Et c'est pour ça que je me réjouis de ce grand débat qui est ouvert et qui va permettre aux personnes de s'exprimer. Je me réjouis même que les évêques aient invité les chrétiens à se réunir entre eux, à exprimer leur doléance, pour reprendre le bon terme, pour que tout ce qui se vit sur le terrain soit remonté auprès des gens qui nous gouvernent, auprès des élus. Je le redis, il y a manifestement un décalage certain. Ce n'est pas une prise de position par rapport aux gens qui nous gouvernent, mais on sent ce décalage et que tout le discours qui vise à justifier les positions, les mesures qui ont été prises ces derniers temps sont assez inaudibles lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger à la fin du mois et qui se sentent complètement oubliés, écrasés et oubliés.
Alors on dit, je redonnerai juste un chiffre, on a parlé des fameux 7 millions de travailleurs pauvres en France, voilà, c'est quand même un quart de la population active française, c'est un chiffre qu'on a souvent cité. Alain Cérisola, vous avez été, je crois, président du Secours catholique Haute-Garonne, Ariège, pendant quelques années. Est-ce que quand vous étiez en responsabilité, cette France, on va dire, précaire, vous frappait particulièrement et l'impression que ces personnes étaient invisibles, justement ?
Oui, bien sûr.
Pour une partie de l'opinion publique.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Lorsque j'étais en responsabilité au Secours catholique, mais encore maintenant, on sent cette pauvreté qui s'exprime et on se sent des fois impuissant pour y répondre. Alors, on essaye d'y répondre, on essaye de construire une société plus humaine, plus fraternelle avec eux, mais on manque un petit peu de moyens. Mais ce que nous révèle cette crise des Gilets jaunes, c'est aller à leur écoute, aller les entendre, aller prendre en compte ce qu'ils disent et voir ce que l'on peut en faire. Alors, je dirais, mais j'aurais peut-être l'occasion de redire ça, cette crise, à mon avis, pose un problème plus profond, un problème institutionnel sur la représentativité. On est dans une démocratie représentative, il y a peut-être des ajustements à faire, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler.
On en parlera. J'essaie juste de donner quelques éléments d'actualité, puisque vous avez parlé donc de l'appel des évêques, tout le monde n'est pas forcément au courant, c'était le 11 décembre dernier, appel aux catholiques de France et à nos concitoyens, publié par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, qui suggère la réunion de groupes d'échanges et de propositions dans les paroisses et différentes communautés en cette veille de Noël, voilà, que l'Église serve un peu de pont dans une France qui a du mal à s'écouter ou à s'entendre. Emmanuel Perrier, qu'est-ce que ça suscite comme première réaction chez vous ?
Ma première réaction, c'est d'y voir l'émergence politique au niveau politique, c'est-à-dire que ça entre dans le débat public de manière assez fracassante, faut bien le dire, entre une frange de la population qui ne cesse de grossir et d'être oubliée depuis maintenant 30 ans. Et ça n'est que ceux qui ont été surpris par ce mouvement sont ceux qui ne veulent pas voir depuis 25 ans ou 30 ans l'évolution de notre société, dans laquelle on a accepté un chômage de masse. On a accepté des déliaisons et des destructions de solidarité familiale, de solidarité humaine, de lieux de vie de manière systématique, et dans laquelle on se progressivement la promesse d'une poursuite de la société de consommation, d'une poursuite de la croissance, d'une poursuite de toujours plus de niveaux d'emploi, de salaire, d'acquis sociaux, etc. Progressivement, s'est révélée une promesse qui est de moins en moins tenue pour de plus en plus de monde. Et donc, il y a un moment où cet abandon d'une part de plus en plus importante. On est aujourd'hui à plus de la moitié de la population française qui regarde son état.
C'est-à-dire la moitié de la population française.
Qui voit qu'en l'espace de 20 ans, elle n'a pas progressé, elle a régressé. Elle s'est précarisée du point de vue culturel, du point de vue de l'emploi, du point de vue de l'éducation, du point de vue des perspectives, du point de vue des liens familiaux. C'est-à-dire que quand on regarde, on voit que on se sent de plus en plus précaire, on sent que le couperet d'une exclusion sociale est très proche. Je pense par exemple, on est dans une société qui a favorisé au maximum la dissolution des liens familiaux. Bien. On se retrouve aujourd'hui avec
un des visages justement des Gilets jaunes.
Évidemment, de femmes célibataires ayant charge d'enfants, c'est-à-dire cumulant le travail dans la journée, plus la responsabilité de l'éducation des enfants, plus le fait d'avoir à gérer le rapport avec le père, etc. En fait, ces personnes-là, elles sont très fragiles. C'est-à-dire qu'il suffit de perdre un emploi. Il suffit pour que tout d'un coup, on passe dans la précarité. On perd de tout ce qu'on a. Donc, en réalité, ce que je veux dire, c'est que... Et il y a ça aussi, mais il y a aussi toutes les catégories de travail dans notre société qui ont été laissées purement et simplement à l'abandon. Les agriculteurs, le monde ouvrier... pour le peu qu'on en a laissé subsister, tout ce qui est des petits emplois. Donc toute cette population, elle est en voie de précarisation. Et il y a déjà 15 ou 20% de la population qui est déjà précaire. C'est pas elle qui est sur les ronds-points. C'est pas elle. Elle ne réagit plus. Mais celle qui s'est manifestée, c'est celle qui forme le gros du taux d'abstention depuis 20 ans.
Alors j'ai quand même une question à vous poser, parce que voilà, on a dit quand même déjà pas mal de choses à cette antenne, et je trouve qu'il y a peut-être une question qu'on n'a pas forcément peut-être assez creusée. C'est que moi j'ai souvenir donc de l'émission qu'on a faite la semaine dernière sur les Gilets jaunes, où les Gilets jaunes, enfin voilà, il n'y en avait pas en plateau parce qu'ils ont refusé de venir. On aurait peut-être s'y prendre mieux, mais ce que ça nous a renvoyé comme question, c'est que quelque part, l'institution médiatique que l'on représente, alors on pourrait dire aussi peut-être les institutions qu'on représente, ne sont plus en fait des corps intermédiaires, comme on dit, dans lesquels ils se retrouvent. La semaine dernière, on avait le président de la CFDT Occitanie, Grégory Martin, qui disait que, enfin voilà, qui essayait entre guillemets de défendre le syndicalisme, mais on sait que les Gilets jaunes ne se retrouvent pas dans ce syndicalisme. On a pu dire la même chose de l'Église, on peut dire peut-être de certains nombres d'associations ou des élites que l'on représente aussi, soi-disant, autour de ce plateau. Est-ce que c'est une question aussi que ça vous pose ? On va commencer peut-être par l'Église. Vous ne pouvez pas parler au nom de l'Église de France, mais on imagine que ça vous a quand même traversé l'esprit, et y compris en communauté, Emmanuel Perrier.
Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en réalité, ça n'est pas un problème Église ou pas Église. C'est la fluidification organisée de notre société, c'est-à-dire dans laquelle quelque chose qui a été organisé depuis 30 ans. Les corps intermédiaires sont des freins ou sont des limites ou sont des lieux, des instances représentatives qui sont susceptibles de poser des problèmes au changement que désire un gouvernement.
Mais quand vous dites qui vous accusez en disant ça, parce que l'accusation est forte, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui seraient réunis pour faire disparaître les corps intermédiaires,
c'est... Mais c'est pas ça, non, c'est que non. Simplement ça gêne tout le monde. C'est tellement plus facile d'avoir une société de masse dans laquelle il ne venait plus que des individus qui n'ont plus de réaction. Regardez dans le monde du travail la manière dont le syndicalisme à la fois s'est auto-suicidé et en même temps on a favorisé ce suicide. C'est-à-dire il y a une perte de confiance de manière générale, perte de confiance dans tout ce qui est du politique, du commun, du collectif. Et c'est ce qui fait que cette expression des Gilets jaunes, elle est purement individuelle. Le phénomène frappant, c'est le fait qu'elle passe par... Elle a un bon côté qui est... on redécouvre des solidarités, mais en réalité, elle ne pourra jamais passer à un échelon politique parce qu'elle est justement le fruit d'une société de la déliaison.
Mais alors, sur ma question sur l'Église, qu'est-ce que vous répondriez rapidement pour donner la parole aussi à Daniel Cabanis ? Voilà, l'Église aussi, on a l'impression, s'est sentie démunie. Hein. On a fait intervenir à cette antenne Monseigneur Ginoux, qui est donc cet évêque qui a revêtu le gilet jaune, qui a fait une déclaration un peu frappante. Hein. Aussi, je veux porter ce message à vous qui vous sentez écrasé, méprisé, humilié par un système économique et politique où l'être humain est rejeté au nom du profit et de l'argent. C'est une courte citation, sa déclaration. Certains évêques se sont positionnés, il y a eu cet appel des évêques. Mais voilà, côté Église, on a pu entendre aussi Monseigneur Ginoux dire on a peut-être raté quelque chose, parce que, voilà, entre guillemets, l'Église paraît ne pas répondre ou être capable de faire valoir cette injustice sociale.
Il y a une part de vrai qui est, je pense, compte tenu du fait que l'Église est encore un des rares lieux en France où il y a un tissu à peu près local. Pas beaucoup, parce que ça repose plus sur grand monde. Mais il y a quand même un tissu local. Il y avait tout à fait de quoi prendre la mesure de ce qui se passe. Il y avait tout à fait de quoi. C'est là où, à mon avis, peut-être il y a une remise en cause à faire. C'est-à-dire que le système de conférence épiscopale avec des commissions, avec etc., qui se réunissent à Paris, c'est un système très lointain de la réalité et du réel. Et il est quand même, c'est l'expérience de tous les prêtres de paroisse de cette déliaison sociale depuis 40 ans.
Daniel Cabanis, Gilets jaunes, peut-être cette question sur les élites, d'une certaine manière, Daniel Cabanis... Vous représentez peut-être aussi une partie des élites intellectuelles. Voilà, vous avez été professeur de droit donc à l'Université Toulousain-Capitole. Est-ce que pour vous, ces Gilets jaunes vous ont posé quelque part une question un peu personnelle ou une question de l'institution que vous êtes censé représenter ?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs observations qu'on peut faire du point de vue de l'institution que je ne représente pas, mais à laquelle j'ai appartenu. Disons que le monde l'enseignement a peut-être raté un coche, mais c'est facile à critiquer, en ce sens qu'il n'a pas su maintenir un langage commun. Il y a les gens qui entrent dans le système, qui ont un langage très, très codifié, qui sont capables de réussir dans des épreuves qui sont très, très codifiées, sans faire du Bourdieu au petit pied. Mais il y a un vrai problème, et il y a tous ceux qui se sentent rejetés avec le non-espoir d'arriver. Ceux, en gros, 30% de gens qui sont smicards et en dessous, ceux qui sont déjà paupérisés, ceux qui, vous l'évoquez à l'instant, qui sont en train de le devenir, ceux que qu'on appelle les working poor, ces gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils se sentent aussi rejetés parce qu'il n'y a plus rien de commun dans le débat et dans le discours. Et on le remarque très très souvent.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il n'y a plus rien de commun.
Ils comprennent pas. Quand que ce soit des politiques, que ce soit des universitaires, moi ça me frappe lorsqu'on écoute certaines émissions un peu théoriques, mais à des heures qui sont encore des heures d'écoute raisonnables, je me dis souvent, mais comment diable est-ce que, et je ne me prends pas pour quelqu'un de très malin, mais j'ai simplement les codes, c'est tout. Comment diable quelqu'un qui ne les a pas, ces codes, peut comprendre de quoi on parle ? Donc il n'écoute pas, alors qu'il y a parfois des choses qui seraient utiles à entendre, mais comme on ne les comprend pas, qu'il n'y a pas d'échange, ben la cause est perdue.
Alain Cerisola, sur cette question des institutions, qu'est-ce que vous diriez ?
Oui, d'abord, je rejoins totalement Daniel Cabanis, et on l'a entendu, certains Gilets jaunes disent, je l'ai entendu avant la prise de parole d'Emmanuel Macron, en disant, mais il faut qu'il parle, mais qu'il parle français, qu'il parle pour qu'on le comprenne. Les gens ne comprennent pas le langage. Peut-être qu'il y a des choses très intéressantes qui sont dites, mais ils ne comprennent pas.
Et en tout cas, ils comprennent le mépris qu'il y a dans les paroles.
Ils le prennent pour du mépris. Alors, par rapport aux institutions, c'est sûr que notre société, notre système démocratique représentative est peut-être à remettre en cause d'une certaine façon. Enfin, je vais être un petit peu provocant, mais quand on pense qu'à l'Assemblée nationale, il y a certains partis d'opposition qui sont représentés par deux ou trois députés, alors qu'ils représentent près de 20% du corps électoral, c'est pas normal. Ces gens se sentent pas représentés, et il y a une remise en cause peut-être totale du mode de scrutin à revoir. Et c'est sûr qu'il y a un projet de révision de la Constitution qui veut introduire une part de proportionnel. Je crois que c'est absolument indispensable pour que ces gens se sentent représentés. Ce que dit Emmanuel Perrier, que les corps intermédiaires, ils sont marginalisés, ils ne veulent plus rien dire pour personne. Ils ne sont, et quand on voit qu'aux élections, il y a près de 50% d'abstention, ça pose vraiment une question.
Abstention quasiment structurelle maintenant, hein, pour toutes les élections. Hein,
absolument. À 50%, mais, hein. c'est pour ça que ces gens qui expriment leur indignation, ces gens qui expriment, qui se sentent pas considérés, il faut absolument, d'une façon ou d'une autre, on trouve le moyen qu'ils soient représentés, qu'ils puissent prendre la parole. Alors les groupes de parole, j'ai entendu qu'à certains maires, notamment à Saint-Étienne, qui ont ouvert des cahiers de doléances, c'est tout à fait important que les gens puissent s'exprimer et que ces doléances remontent au fur et à mesure. Mais si on continue de les négliger en leur disant, ou en faisant comprendre, on est plus intelligent que vous et on sait ce qu'on a à faire, on va vers la révolte, même la révolution. C'est pas possible. Il faut changer les institutions. Il faut absolument une progression dans la représentativité des personnes.
Alors, il y aurait certainement bien d'autres choses à dire. Je sais pas, Daniel Cabanis, que vous êtes peut-être moins intervenu. Est-ce qu'il y avait une autre remarque importante qui vous venait sur ce sujet ? Avant qu'on fasse une première pause.
Oui, juste une petite observation. Bon nombre de gilets jaunes polarisent leur revendications autour d'une notion qui n'existe pas, le fameux référendum d'initiative.
Ah, ouais.
C'est un non-sens du point de vue du droit. Il existe de l'initiative législative ou constitutionnelle qui peut se poursuivre par un référendum. Mais on peut pas les mettre l'un et l'autre ensemble. Mais quoi qu'il en soit, c'est une procédure de démocratie semi-directe, puisque la directe absolue, elle n'est pas possible dans un grand pays. Et c'est vrai que ça donne l'impression de participer. Le petit bémol que je mettrais, c'est lié à mon pays d'origine, la Suisse, dont M. Ferrand s'est joyeusement moqué en pleine assemblée, sans quoi il n'a pas été très élégant, où on a l'initiative et le référendum depuis très 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 longtemps.
Votation.
Voilà, donc on a tout le temps nos votations, on vote tout le temps, avec effectivement un risque de désaffection. Donc théoriquement, elle fonctionne bien, en ce sens que c'est assez facile à mettre en œuvre, mais pratiquement... Ce sont aussi des pourcentages souvent très très bas de gens qui se déplacent pour voter. Donc, c'est peut-être pas le remède miracle auquel on aimerait croire.
Voilà, on va s'arrêter là. Peut-être qu'on en reparlera lors de la prochaine émission, Le Grand Débat. C'est même plus que probable. Je voudrais juste, avant qu'on fasse une première pause, rappeler le titre d'un ouvrage, me semble-t-il, qu'il faut lire, No Society, de Christophe Gulluy, qui est donc ce géographe qui a théorisé la France périphérique. On fait une pause et puis on va vous retrouver pour parler du pacte de Marrakech. Le grand débat, c'est donc le thème de cette émission Vivante Église en ce vendredi, donc presque veille de Noël, avec autour du plateau pour cette dernière édition 2018, Daniel Cabanis, ancien professeur d'histoire du droit à l'université Toulousain Capitole, Alain Cérizola, diacre délégué diocésain à la solidarité pour le diocèse de Toulouse, et Emmanuel Perrier, prêtre dominicain et professeur au Studium des Dominicains de Toulouse. Décidément, tout le monde est de Toulouse. C'est normal. Bien qu'on les autres sont invités, je dis ça en souriant parce que j'ai dû répéter le mot à peu près 4 ou 5 fois. Chose promise, chose due, on va parler dans cette deuxième partie d'émission donc du fameux pacte de Marrakech. Alors, j'allais dire c'est presque pire que les gilets jaunes. À lire les réactions ou ce qui circule sur les réseaux sociaux sur le pacte de Marrakech, je trouve que pour le coup, voilà, ça sera peut-être l'objet d'une question, on atteint des sommets dans la violence des interventions qui sont peut-être en partie justifiées. On va en parler. C'était donc le lundi 10 décembre dernier. Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été approuvé donc par une conférence intergouvernementale. C'était au Maroc, à Marrakech, représenté par à peu près 160 pays. L'objet de ce pacte, qui est un pacte international, que l'on a dit être n'ayant pas valeur d'obligation pour les États, regrouper un certain nombre de recommandations. Je crois qu'il y a 23 objectifs pour améliorer la coopération en matière de migration internationale. Il y a en fait beaucoup de choses dans ce pacte. On va peut-être essayer de le détailler. Je vais juste citer quelques réactions. On a parlé d'invasion, de colonisation, de droit à la migration généralisée dans notre pays. Et ça, c'était Marine Le Pen. Éric Ciotti des Républicains s'en est vivement ému. Nicolas Dupont-Aignan, les Français ne pourront plus décider qui a le droit de rentrer dans notre pays. On a d'un côté crié à la démagogie de ce type de remarques et d'autres, quand on creuse, pointent du doigt, de fait, certaines interrogations autour de ce pacte. Alors, je vous relancerai. On va commencer, Daniel Cabanis, puisque vous êtes la chroniqueuse géopolitique de Radio Présence, par avoir votre réaction.
Ben, je l'ai déjà eu une première fois sur notre radio, puisque ça est passé dans ma petite émission. Et ces réactions que l'on trouve sur les réseaux sociaux, je l'avoue un peu brutalement, me font absolument horreur.
C'est hystérique.
C'est complètement hystérique. On part de faits qui n'existent pas, de projets qui n'existent pas, pour démolir d'une part un pacte qui a au moins l'avantage d'être un essai pour se coordonner, dans la mesure où c'est un pacte et non pas un traité, qu'il n'y a pas d'institution qui oblige à quoi que ce soit, je veux dire, on garde une marge de manœuvre considérable. L'intérêt, c'est que le pacte, en utilisant un vocabulaire qui est accepté par tout le monde, on a parlé pour les Gilets jaunes de la question du vocabulaire, mais c'est aussi vrai au niveau des relations internationales, il y a des notions sur lesquelles on s'est mis d'accord et ça permet de discuter en sachant de quoi on parle. Donc le fait de réguler les migrations, c'est plutôt une bonne idée, parce que ça signifie aussi qu'entre les pays du Sud, où il y a beaucoup à faire, on parviendra à améliorer la situation, et que Nord-Sud, puisqu'on emploie ça habituellement, alors que c'est pas toujours juste du point de vue géographique, on pourra un peu mieux savoir ce qu'on fait, avec, je crois, et c'est important, une volonté de respecter la dignité des migrants. Parce que la situation actuelle, elle est insupportable, dans la mesure où des hommes, des femmes, des enfants, mettons-le dans l'ordre qu'on veut, sont de la chair à fric pour les trafiquants, sont exploités parfois lorsqu'ils sont finalement plus ou moins acceptés ou tolérés dans des pays qui n'ont pas envie de les accueillir. Dès lors qu'il y a un cahier des charges, pas plus que ça, commun, je pense qu'il y a des possibilités d'améliorer. Que ce ne soit pas facile, c'est bien évident, mais le reste est insupportable.
Daniel Cabanis, la question de fond, c'est de savoir si cet accord, je ne sais pas si le terme exact c'est accord, si ce pacte, pardon, qui a été approuvé, qui pour l'instant n'a pas été voté, hein, qui va être voté à l'ONU, a valeur contraignante pour les États.
Non,
oui ou non ?
Non. Je viens de le dire, ce n'est pas un traité.
Sauf que quand même, les juridictions peuvent appeler à ce pacte pour interpréter les lois, les lois nationales.
Absolument, voilà.
N'est pas sans portée juridique.
Portée juridique, mais ça n'a pas du tout le même côté contraignant.
Alors, oui, mais Daniel, c'est ce que vous dites, mais pour d'autres, c'est un peu aller vite en besogne. Je cite Nicolas Dupont-Aignan, qui dans une vidéo qui a eu énormément de vues, dit la chose suivante. Il dit que petit à petit, en fait, ces traités en fait, finissent par avoir valeur faire loi dans les pays. Il dit que petit à petit, la Cour européenne des droits de l'homme en fait, s'inspirera de ce pacte, que les juges français s'appuieront sur ce pacte aussi pour des décisions d'expulsion et autres. J'ai trouvé aussi Jean-Thomas Le Sueur dans un article du Figaro Vox, donc ce site internet un peu intello du Figaro, qui est à la tête de la fondation Thomas More, qui cite par exemple comme exemple que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est entrée dans le bloc constitutionnel français après une décision du Conseil constitutionnel en 1971, ou la Charte des droits fondamentaux adoptée en l'an 2000 par l'Union européenne, à laquelle le traité de Lisbonne de 2007 a octroyé une valeur juridiquement contraignante. Bref, ça peut être aussi un pacte qui finit par avoir valeur de loi en France. En tout cas, c'est ce que pense globalement l'opposition en France, puisqu'il y a aussi un certain nombre de républicains qui ont dit leur mécontentement haut et fort. Que répondre à ce point précis, Daniel Cabanis ?
Alors, effectivement, on a des processus dans lesquels des textes qui, au départ, n'avaient pas valeur constitutionnelle ou n'étaient peut-être pas aussi contraignants que ça, le sont devenus. Mais ça ne devient pas comme ça. Ça suppose un certain nombre de décisions qui sont soumises à des règles plutôt formaliste, et je le répète, à la limite, par rapport, par exemple, à la Déclaration européenne des droits de l'homme, il n'y a pas de grande nouveauté. Sur le fond, on reste exactement dans la même chose. Simplement, on le catégorise par rapport au problème des migrations. Donc, je pense que M. Dupont-Aignan et quelques autres n'ont rien compris.
Alors, la parole peut-être à Manuel Perrier avant de faire réagir Alain Cerisola pour avancer peut-être dans le débat. Je continue à citer donc dans Valeurs Actuelles, Éric Ciotti qui dit la chose suivante. Le pacte de Marrakech va accentuer les problèmes puisqu'il est animé par une idéologie dangereuse qui considère que l'immigration massive est une fatalité à laquelle les nations doivent se résigner. Avec les Républicains, nous refusons cette soumission idéologique. Que dire de ces propos ?
Je pense que le pacte de Marrakech été mieux compris ou mieux accepté s'il avait été signé en même temps qu'une réaffirmation de l'autonomie politique d'une nation, ou de la nôtre par exemple, sur la question de l'immigration. C'est une des conséquences, les réactions très violentes qui apparaissent sont une conséquence du fait que la question, le choix de société qui a été fait, c'est-à-dire pour continuer à soutenir notre économie alors que nous n'avons plus la démographie pour le faire, il nous faut faire venir de la main-d'œuvre étrangère. C'est un choix politique qui date maintenant, en Europe de manière générale, des années 50. C'est un très vieux choix politique. Et c'est un choix politique qui n'a jamais été discuté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une tentative pour la mettre sur le tapis, il y a tout un ensemble de problèmes, de questions, de regrets des pays coloniaux pour ce qu'ils avaient fait, qui est venu empêcher cette discussion et tout un tas de mauvaise conscience et par certains côtés pour non sans bonne raison, mais tout un tas de choses qui ont fait que cette question n'a jamais été discutée. Le pacte sur l'immigration, c'est le résultat d'un travail de la commission, je ne sais plus comment elle s'appelle, un des petits organismes de l'ONU sur l'immigration qui, depuis 20 ans, c'était en 2000 ou 2001, je ne sais plus, où ils avaient sorti leur premier texte en disant « Il faut 1 million d'immigrés en Europe tous les ans pendant 20 ans si nous voulons compenser le déséquilibre démographique de l'Europe et si nous voulons continuer à assurer les équilibres économiques. » Bien. Et donc, c'est un choix qui est fait et c'est un choix qui pose aujourd'hui de plus en plus de problèmes. Et qui, n'ayant pas été mis sur le tapis, n'ayant pas été discuté, n'ayant pas été... il faut dire, soit on essaye de garder le même niveau de vie, on essaie d'avoir des retraites, et à ce moment-là, il faut importer des immigrés, avec quand même un petit côté esclavagiste, hein, je veux dire, dans le fait qu'il nous faut des petits bras hein, pour financer notre retraite. Il y a quelque chose de gênant là-dedans. Mais c'est le choix que nous avons fait, parce que tout simplement, c'est impensable aujourd'hui pour des hommes politiques de dire, eh bien, les retraites ne seront pas payées. Donc, il faut, on n'a pas le choix. Mais comme la question n'a jamais été mise sur le tapis, eh bien, ce pacte de Marrakech apparaît au pire moment comme étant le symptôme même de la déconnexion entre des élites et l'incompréhension du peuple qui voit que ça ne marche pas. Le multiculturalisme ne marche pas, que ça va être de pire en pire. On a un ministre de l'Intérieur qui a démissionné récemment en disant clairement ce qui allait advenir. Donc c'est pas une lubie, c'est pas une illusion. Et le problème, c'est que ça n'est toujours pas mis sur la table.
Alors, je vais reciter quelques-uns des objectifs, hein, des 23 objectifs quand même. Oui. Juste rendre plus accessibles les filières légales de migration, fournir des preuves d'identité à chacun, rendre les périples migratoires moins dangereux, permettre aux migrants de contribuer au développement de leur pays d'origine, etc., etc. Donc, on peut avoir l'impression de prime abord que ce sont, c'est une coordination internationale pour des sujets graves s'il en est. Mais Alain Cerisola, se contenter de pointer du doigt en fait ces réactions comme étant un peu populistes ou excessives, n'est-ce pas là aussi le symptôme d'une déconnexion des élites que reprochent les Gilets jaunes aux institutions ?
Peut-être, mais j'ai envie de dire que le problème de l'immigration est un problème extrêmement compliqué, mais que l'on ne peut pas se refermer sur soi-même. Moi, cette frisolité m'inquiète beaucoup. ça vient d'être dit, mais ce problème de la migration, c'est sûr que ça passe forcément par des ajustements, ça passe forcément par une diminution de mon confort, ça passe forcément par une diminution de mon propre niveau de vie. On ne peut pas ne pas les accueillir. Alors moi, je voudrais dire, parce que vous l'avez dit, mais on le redit, hein, ce pacte, il est non contraignant, il n'atteint pas la souveraineté des États, et c'est pas la création d'un droit à immigrer. Bon, alors on peut bien sûr dire que ça peut faire jurisprudence, que ceci, que cela. Mais si on ne sort pas de cette frilosité, on n'avancera pas. Je crois qu'il faut être courageux. Je crois qu'il faut être courageux, prendre quelques risques. J'ai envie de dire, je vais forcer un tout petit peu le trait, mais à l'approche de Noël, on peut peut-être le dire. Si notre Dieu, il avait fait ce raisonnement, on ne sait jamais, il n'aurait pas envoyé son fils. Il l'aurait gardé au chaud près de chez lui. Or, son fils, il est venu, il a affronté le monde, il est mort, il a été crucifié, mais il est venu pour nous sauver. Moi je crois que dire le pacte de Marrakech, ça ouvre la porte, ça pourrait ouvrir la porte à telle ou telle chose, c'est une frilosité, moi, qui m'agace, bien
mais
sûr.
Alain Cérizola,
on peut ne pas être d'accord, mais ce problème de la migration, il faut arrêter de l'instruire. Il faut arrêter de rejeter les migrants à des fins purement électorales. Il faut arrêter de rentrer dans le jeu de certains qui veulent en faire un argument électoral. Voilà.
Alain Cérizola, on l'a dit au début de l'émission, vous avez été en responsabilité au Secours catholique, oui. Donc président du, oui, Secours catholique Haute-Garonne et Ariège. Quand on discute avec des gens de la rue, les gens de la rue, qui sont peut-être pour une partie des gilets jaunes, sont les premiers à poser la question à cette question à ce problème de la migration.
Oui, c'est apparu dans
les rues de Toulouse. On dit qu'il y a à peu près 1000 personnes qui dorment dehors et qu'aujourd'hui il y en a une bonne partie qui sont des familles.
Oui.
Quand on interroge les responsables d'associations, y compris le Secours catholique, ils disent qu'ils n'arrivent pas à faire face et que du coup ces gens-là se retrouvent dans des camps, etc. Donc c'est-à-dire qu'entre guillemets, la France d'en bas pose la question que ne pose pas forcément la France d'en haut, et en plus les conditions d'accueil sont pas forcément au rendez-vous. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous ?
On peut répondre à ça, mais je veux quand même redire que le pacte de Marrakech, ça vise simplement à apporter un peu d'humanité au problème migratoire, et c'est tout à fait important. Alors c'est sûr, mais on parle d'immigration massive, on n'est pas dans une immigration massive. Il y a 100 000 personnes, je crois, qui frappent aux portes de la France tous les ans.
C'est 200.
200.
Plus l'immigration illégale, hein, attention.
Oui, plus l'immigration
illégale.
C'est
pas les mêmes
chiffres. Hein. Mais on est très loin de l'immigration massive, de l'envahissement, de faire des réactions hystériques qui ont été citées, de faire de la France un squat. Je pense que c'est complètement démesuré et qu'il faut, je me répète, mais qu'il faut vraiment affronter ce problème avec courage, sans frilosité et avec les conséquences que ça a. Je dis pas qu'il faut ouvrir grandes les portes de la France, mais on ne peut pas constamment dire on ferme la porte à la migration.
Emmanuel Perrier, vous vouliez prendre la parole.
Oui, juste pour dire, sur le pacte lui-même, moi il y a deux choses qui me gênent beaucoup. C'est la première, c'est la confusion de tous les statuts juridiques distincts qui avaient été élaborés en droit international entre l'asile, les réfugiés, asile politique, réfugiés, migrants économiques. Et tout est mis sur le même plan. La deuxième chose qui est, parce que du point de vue de la justice, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose d'accueillir quelqu'un, parce que s'il reste chez lui, il est mis à mort, donc on l'accueille dans le cadre d'un asile, par exemple, ou parce que des réfugiés, parce que on accueille des personnes qui fuient une contrée en guerre, hein, parce qu'ils n'ont plus de toit, ils n'ont plus rien, etc. Ils sont persécutés, voilà. Et puis accueillir pour avoir, si je puis dire, de la main d'œuvre pas chère. Bien, c'est pas la même type de justice, c'est pas les mêmes questions de justice qui sont en jeu. Bien. Et la deuxième chose qui me choque aussi, c'est le poids sur les médias, hein, où le pacte exprime bien combien il va falloir bien formater l'opinion. Alors, pour que tout le monde soit...
Ils disent pas texto qu'il faut formater l'opinion, oui. Ils disent qu'il faut promouvoir le respect mutuel des cultures, des traditions et des coutumes entre les communautés d'accueil et les migrants, il faut veiller au respect des lois nationales et des coutumes du pays de destination, et en même temps, il faut on peut retirer les subventions aux médias qui promeuvent la xénophobie ou des discours par trop critiques sur l'immigration.
Voilà, c'est-à-dire que... Pas de commentaire.
Daniel Cavani,
le point de ma réflexion, c'était actuellement, ce qu'il y a de scandaleux, c'est que... D'accord, Alain, mais ce qu'il y a de scandaleux aujourd'hui, c'est que qui paye pour le prix de cette immigration massive. Qui paye le prix ? Ce sont pour l'instant les classes moyennes et les plus petits. Et pour tout dire, moi ce qui me choque, c'est quand je vois une fermière du Gers, que je rencontrais récemment, une fermière du Gers qui vient de prendre sa retraite et qui travaille depuis l'âge de 17 ans, et qui m'a dit « je ne comprends plus parce que dans ma commune, on accueille des migrants, on leur donne, avec tout ce qu'on leur donne, ils ont plus que moi pour vivre. » Voilà.
C'est vrai.
Il y a un problème d'injustice criante. Absolument. Criante.
Daniel Cabanis, est-ce que vous avez un commentaire avant qu'on fasse une deuxième pause ?
Oui, alors je rebondis sur ce que vous dites. En prenant un exemple, excusez-moi, qui est de nouveau Suisse. En Suisse, il y a effectivement ce problème, c'est que les migrants ont droit, avant que leur statut définitif ne soit décidé, à une allocation mensuelle qui est extrêmement élevée. Et comme contrairement à ce qu'on croit, il y a aussi des gens qui ne vivent pas très très bien en Suisse, ça peut susciter quelques frictions. Mais... si on arrive à passer par-dessus le premier choc, la comparaison de deux chiffres, donc, que je ne mets pas du tout en doute entre ce que vous a dit votre interlocutrice gersoise, n'oublions pas que le migrant, c'est quelqu'un qui arrive avec rien. Il a tout perdu, il doit se reconstruire complètement, et les chances d'une intégration passent par un minimum de moyens pour trouver sa place. Alors, que ce soit difficile de mettre en place la juste mesure, je n'en disconviens pas, mais je crois qu'il faut faire attention de ne pas céder au premier degré à ces réactions qui sont des réactions négatives. Et j'aurais tendance à dire, c'est là que l'État doit faire un effort, notamment en matière fiscale, pour taper là où il y a de l'argent. Hein, ce n'est pas les classes moyennes où il y en a le plus, mais il y a encore des très gros revenus qui échappent, des très grandes sociétés qui échappent. Aujourd'hui, on le voit dans l'annonce de primes pour compenser un petit peu le malaise économique. Qu'est-ce qui va pouvoir payer ? Les grandes sociétés. Les petites entreprises, pour beaucoup d'entre elles, n'en sont pas capables. Certaines réellement, d'autres parce que leurs patrons ont les doigts accrochés sur leur portefeuille. Ça, c'est autre chose.
On va faire une deuxième pause, que le temps passe. Pour finir, je voudrais citer donc le message de Noël du pape François de l'année dernière, ou pour faire écho peut-être à ce que disait Alain Cerisola, le pape François a appelé les chrétiens à être les protagonistes de l'hospitalité de Dieu, et disait la chose suivante: Marie et Joseph, pour qui il n'y avait pas de place, sont les premiers à embrasser celui qui vient nous donner à tous le document de citoyenneté. Le grand débat, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Je ne vais pas représenter, allez si rapidement, Alain Cerisola, Emmanuel Perrier, Daniel Cabanis, rapidement parce qu'il nous reste peu de temps, et je leur ai demandé en cette fin d'émission de venir avec chacun une bonne nouvelle qu'ils retiennent de l'année 2018. Vous avez 3 minutes chacun, c'est le grand oral dont je plaisante. Daniel Cabanis, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité qui vous met la joie au cœur en cette fin d'année ?
Alors, j'aurais dit sans hésiter joie au cœur il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Maintenant, il faut mettre un bémol parce que les intéressés sont pas si contents que ça. Mais j'avoue que la réforme du bac me paraissait quelque chose de magnifique. Parce qu'enfin, on donnait aux gamins la possibilité de choisir, la possibilité d'être responsable beaucoup plus tôt, comme ça se fait dans les pays du nord de l'Europe, et où il n'y a pas ce malheur des écoliers et des lycéens qu'on connaît chez nous. Pour moi, c'était la bonne nouvelle, ce nouveau plan, mais apparemment, les intéressés ne sont pas si contents que ça. Peut-être qu'on ne leur explique pas assez bien, je ne sais pas.
Qu'est-ce qui vous plaisait tant dans cette réforme, juste ?
Le fait qu'il y avait un tronc commun beaucoup plus simple, et puis tout autour, comme une jolie fleur, des pétales qu'on additionnait en fonction de son goût. Alors, c'est vrai que le bémol, c'est que tous les lycées n'étaient sans doute pas en mesure d'offrir la totalité des options. Les petits lycées ne peuvent matériellement pas, donc il faut voir comment on peut maintenir l'égalité pour les lycéens.
Dans les petites villes, où il n'y a pas beaucoup de lycées.
Oui, ça. Mais en dehors de ça, mais qui peut trouver une solution, je pense que c'est une bonne chose. Et pour moi, c'était une bonne nouvelle. J'ai enseigné en fac pendant 45 ans et c'est une des choses qui m'a souvent le plus désespérée, c'est de voir des gens arriver en n'ayant jamais fait quelque chose qui leur plaisait, en se demandant s'ils arrivaient dans quelque chose qui allait leur plaire.
Alain Cérizola, votre coup de cœur pour l'actualité 2018. Bonne nouvelle.
Je pourrais dire en forme de boutade que la France est championne du monde de foot et que ça a créé une certaine communauté, un certain point commun.
Vous n'avez pas l'air d'y croire, donc donnez-nous votre vraie bonne nouvelle.
Mais je crois, non pas pour être plus sérieux, mais un peu pour être provocant. Moi, je crois que la crise des Gilets jaunes est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Au-delà de ce que l'on peut analyser, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de mettre sur la table les vrais problèmes. Et que si on sait s'écouter, si on sait organiser des dialogues, si on sait faire remonter les problèmes, et si chacun veut mettre un petit peu d'eau dans son vin, sortir de ses certitudes, sortir de son piédestal, je crois que ça peut être très profitable à la France, de cette révolte qui est actuellement en France, ça peut être très profitable, et moi je crois que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Alors on l'a dit tout à l'heure, ça pose un tas de problèmes, mais je crois que cette prise de conscience, cette crise qui existe en France actuellement, ça peut être une bonne nouvelle si elle est bien gérée et si chacun veut bien ne pas lancer la pierre à l'autre, l'écouter et aller et faire un pas vers lui.
Et quelle serait l'issue heureuse qui pour vous couronnerait cette bonne nouvelle ? C'est probablement difficile à résumer, mais...
Je peux pas dire quelle peut être l'issue, mais beaucoup plus de justice sociale, de justice fiscale également. Daniel l'a dit tout à l'heure. Il y a des écarts fiscaux. Il y a des gens qui sont très riches et qui arrivent en utilisant la loi à externaliser leurs revenus et échapper au fisc. Et je crois, et les Gilets jaunes, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il y a des gens très riches et nous, on n'a rien du tout. Donc, je crois plus de justice fiscale, ce serait ça la bonne nouvelle, et que ces dialogues qui vont s'organiser autour du grand débat en France et notamment à l'appel de nos évêques, je crois que c'est une bonne nouvelle, encore une fois, si on sait s'écouter et sortir de nos certitudes.
Voilà, la moitié de la population se partage 8% du patrimoine, ou plus d'un quart des revenus pour 10% de la population. Ça, c'est des chiffres du Monde.
Ouais.
Votre bonne nouvelle, Emmanuel Perrier, en ce vendredi à 3 jours de Noël, je vous introduis.
Oui, alors moi j'ai pensé d'abord aux populations syriennes qui, parce que après 6 ans de guerre, ont pu regagner leur village détruit et commencer à rebâtir quelque chose, à revivivre.
Ouais.
Et 6 ans de guerre, hein, on n'a pas eu ça en France depuis 2-3 siècles. Hein.
Et des centaines de
milliers.
Y compris des chrétiens, en Irak aussi, à Karakoche. Donc c'est voilà. Après la question de est-ce qu'on a des bonnes nouvelles ? Les bonnes nouvelles, moi je pense toujours à deux choses. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'une nouvelle est bonne ? Une nouvelle est bonne qui apporte du bien. Une nouvelle qui apporte du bien, il y en a dans nos vies quotidiennes. Lorsque d'abord on prend le temps d'être attentif à ceux qui sont les plus faibles dans nos familles, on accueille, on essaye de refaire par exemple de rassembler la famille avec tout le passif et toutes les difficultés, toutes les conflits qui peuvent exister. Donc on va par-dessus des divisions. Ça c'est une bonne nouvelle. Et puis plus profondément, je pense. On aura dans cette fête de Noël toujours, évidemment, ça c'est tradition, c'est bien acquis en France, le fait que Noël c'est un moment de famille, un moment de réunion. Très bien. Mais la seule bonne nouvelle qui peut venir, c'est à ce moment-là, c'est celle qui vient de Dieu. C'est le Christ qui vient apporter sa paix dans des familles divisées, dans des sociétés divisées, dans des sociétés où il n'y a plus de confiance. Le Christ, c'est la lumière, la vérité, la paix, le prince de la paix. Alors, qui question, vient dans notre monde.
Question piège pour finir, puisqu'on a beaucoup parlé des gilets jaunes. Imaginons qu'on ait des gilets jaunes qui nous écoutent. En quoi le Christ va lui venir contribuer, peut venir contribuer à lui donner la paix? Je veux dire, pour beaucoup de Français aujourd'hui, pour une antenne comme la nôtre, évidemment, ça parle à beaucoup d'auditeurs, mais pour beaucoup de Français, c'est difficile à comprendre.
C'est pas difficile à comprendre, c'est que dans le quotidien, on ne s'en sort pas sans Dieu.
Pourtant, beaucoup de Français s'en sortent sans Dieu.
Non, justement, c'est exactement, votre remarque touche exactement juste. On ne s'en sort plus sans Dieu. Ça fait 50 ans que notre société a tourné le dos à Dieu. Ça fait 50 ans. Il a suffi de 50 ans pour qu'aujourd'hui, une bonne part de la population sache qu'elle ne s'en sort plus sans Dieu.
C'est-à-dire, si vous deviez un tout petit peu développer, parce que je vois qu'il nous reste une ou deux minutes.
Faut mettre un peu Dieu dans sa vie.
Qu'est-ce que vous lisez dans l'actualité française qui va dans ce sens?
Dans ce sens, on voit par exemple, quand on voit des gilets jaunes, dire tiens, on redécouvre la solidarité. Mais je l'ai entendu en fait dans des campagnes près d'agriculteurs qui, justement parce qu'ils ne vivent plus de leur métier, sont obligés de se prêter des matériels, de retrouver des solidarités, de travailler ensemble, etc., pour arriver à s'en sortir. Bon. Eh bien, dans ces villages où finalement on ne se parlait plus trop, où chacun était dans son coin, on retrouve un lien humain et dans lequel on est obligé de s'arranger avec ceux avec lesquels on vit. Et de la même façon, dans les familles. Quand on n'a pas beaucoup de choix, quand on n'a pas beaucoup de possibilités, on fait avec, on s'organise, on fait... Voilà. Et... Autrement dit, dans cette situation difficile, il y a un moment où on se rend compte qu'on vivait un peu trop pour des choses matérielles et qu'il y avait des choses un peu plus importantes. Et que finalement, peut-être qu'on vit un peu moins bien, mais en même temps, rien ne vaut le fait de se retrouver avec des gens en qui on a confiance et que l'on aime. Eh bien, ce qui permet de comprendre, de faire ce chemin-là, ce trajet-là, eh bien, pour le faire, il faut se confier à Dieu et confier sa vie au Seigneur, avec, dans la prière, aller le prier un peu. C'est pas difficile, hein, et c'est lui qui guide nos vies.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église ce matin. Voilà, merci beaucoup à tous et rendez-vous est donné donc pour l'année 2019. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.